Alors ce nous, c'est un tout petit monde, c'est nous les professeurs au Collège de France. Hein. Bon. C'est aussi un nous générationnel qui pense que, d'une certaine manière, le texte est la cendre refroidie de la voix. Bon. Ce processus que Barthes décrit magnifiquement, c'est très exactement celui qu'on voit à l'œuvre dans les archives. Parce que pour comprendre, pour comprendre le fonctionnement, justement, enfin, l'écriture d'un livre chez Duby. Dans l'histoire continue, il le décrit comme un engrenage. Ainsi fonctionna l'engrenage par quoi, tout au long de ma carrière, mon métier d'enseignant s'est conjugué à mon métier de chercheur et à mon métier d'écrivain. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, j'organise un séminaire, j'écoute les mecs. Là, c'est Claude Carozzi, le 17 décembre. Je prends des notes. D'accord ? Donc ça, c'est une première, et on peut suivre, mais vraiment pas à pas. Hein. On a la retranscription l'oralité du séminaire, la prise de notes de Duby, ce qu'il en retient. De ce séminaire, je fais le cours. Après, c'est très simple, il suffit de prendre les annuaires du Collège de France, et on voit que les sujets du séminaire deviennent les sujets du cours de l'année d'après, et ces cours sont enregistrés et ensuite retranscrits. Vous voyez là sous les corrections manuscrites, cours du jeudi 4 mars 1982. La première surprise, ça a été de voir que cette retranscription de la parole de Duby était l'avant-texte de tous ses livres. Je dis bien de tous ses livres, sauf les livres sur l'histoire de l'art, qui sont les seuls à ne pas être précédés par un cours au Collège de France. À partir du moment où Duby a dit ce qu'il avait à dire, que ce dit a été enregistré, qu'il a, parce que la vie est bien faite, dès le surlendemain, sur son bureau, dans un peu une petite, toujours maniaque, avec rituellement agrafé dans une chemise verte, court de monsieur le professeur Georges Duby, du temps, hein, il arrache la chemise et il utilise cette transcription d'une parole comme l'avant-texte du livre à venir. Il en biffe, en règle générale, les deux tiers. Mais j'ai fait des analyses, montré que d'une certaine manière, ça peut paraître peu économique, mais en réalité, c'est l'essentiel qui en demeure. Et puis, il y a quelque chose de magnifique, c'est qu'on peut dire que, proprement, matériellement, Duby écrivait sur ce qu'il avait dit. On peut dire aussi que pour lui, il n'y avait pas de page blanche. Il n'écrit jamais sur une page blanche. Il écrit sur ce qu'il a dit. Donc c'est là où on voit le processus, pas encore d'un travail d'historien, mais d'un travail d'écriture. La deuxième surprise, elle est à l'envers, c'est de voir, de découvrir les fiches de cours. Il y a des témoignages qui disaient que, moi je m'en souviens, quand j'étais jeune, j'allais le lire, j'allais l'écouter au Collège de France, il avait des petites fiches comme ça, et puis qui semblait ne pas lire en réalité, comme un bon joueur de poker quoi, qui a son jeu dans les mains et puis qui ne le regarde pas. Bon. Et puis, comme ça, une année de cours au Collège de France, c'est environ 800 fiches comme ça. Or, ces fiches, elles sont entièrement rédigées. Donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il a écrit. Mais au mot près, voilà le début d'un cours, et vous voyez qu'il y a ici, un repentir hein, en bleu, donc là il apparaît en gras dans cette retranscription diplomatique, et vous voyez que la seconde campagne d'écriture rajoute des effets d'oralité. Au milieu d'un livre, que je juge d'une grande importance, fondée sur l'exploitation d'une archive, d'un document, d'une richesse exceptionnelle, hein, présentée d'une manière fascinante, hein, la vie des villages. Hein. Mon collègue, mon ami, Emmanuel Leroy-Ladurie, en vient à parler des femmes, il les montre, loquaces, bavardes, jacassantes surtout, il les montre curieuses. Tous les effets de rythme, d'oralité, de reprise, tout cela, tout est déjà dit et écrit d'une écriture tellement fine qu'on ne peut pas imaginer que Duby fasse autre chose que l'apprendre par cœur et le dire comme ça. Bon. Donc, ça dit quelque chose d'assez intéressant sur, me semble-t-il, sur le rapport entre la lettre et la voix, et sur le fait que, évidemment, qu'il parlait comme un livre, puisque ce qu'il disait, il l'avait préalablement écrit et entièrement rédigé. Mais ça ne fait que reculer le problème. Dès lors, comment le travail historique, proprement dit, où est-il, puisque à chaque fois qu'on croit le trouver, on revient sur l'écriture, et même dans sa parole on revient sur l'écriture. Il y a toujours de l'écrit avant, contre sa poétique déclarée. Alors on peut chercher dans les manuscrits, voilà le manuscrit des trois ordres. Je termine là, je fais juste voir quelques images. Les trois ordres, c'est évidemment, il y a un moment où, et là encore, c'est exactement comme dans la thèse, on ne voit pas arriver le coup de génie, qui est aussi le coup de faiblesse de ce livre, c'est-à-dire le moment où il va inventer l'idée que ce modèle des trois ordres a été, au fond, construit contre la société qu'elle prétend décrire. Et c'est en cela que les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme est, à mon sens, un grand livre sur la pensée réactionnaire, puisque c'est Adalbéron de Long qui écrit la théorie des trois ordres, non pas pour dire ce que la société est, mais pour se désoler de ce qu'elle n'est plus. Et comme dans le film, comme dans Drôle de drame, Michel Simon, à force de dire des choses terribles, les choses terribles finissent par arriver. Eh bien, cette pensée des trois ordres, qui est une théorisation de la société contre ce qu'elle était en train de devenir par deux octogénaires carolingiens dépassés, finit par s'inscrire dans la réalité, finit par devenir l'institution imaginaire de la société. Et on a parfois, là juste, vous voyez, l'éclipse et puis latence, point d'interrogation. Ce qui est évidemment, du point de vue de la temporalité, pas tout à fait la même chose, mais il est en train de poser, de chercher, de faire des essais de voix sur la question de la virtualisation. Alors, je voudrais juste pour terminer me demander si, au fond, le véritable visage de l'historien, il n'est pas à trouver dans les fichiers. Et là, je termine juste pour vous faire voir quelques-uns de ces fichiers. Parce qu'on trouve quand même dans les dossiers sur les trois ordres quelques fiches qui sont des fiches de lecture, où on peut remonter jusqu'au livre qu'il a lu. Mais pour remonter jusqu'au livre qu'il a lu, peut-être qu'il faut comprendre, et ça on l'a mieux compris, disons cet été, grâce encore une fois aux explorations de Yann Potin et de Philippe Artier, il faut mieux comprendre l'extraordinaire facticité de ce qui se donne comme fond Georges Duby et qui est une sorte de cénotaphe littéraire. Car à Aix, il y a, à la Maison des sciences de l'homme, il y a un autre fond Duby. Il y a d'abord ses livres. Et, alors évidemment, on a perdu le classement, on a perdu tout ce qui venait en fourrer les exemplaires, les notes, tout ça a été jeté. On sait que ça a été jeté, mais il reste quelques annotations, etc. Il y a les fichiers qui sont restés dans son bureau et qui n'ont pas été, ce qui est intéressant du point de vue de l'image qu'on se fait, des fichiers d'étudiants, des fichiers de tout ce qui, au fond, témoigne d'un... Vous voyez, c'est vraiment dans son jus, hein, Hein, c'est dans un bureau, les gens ne savaient même pas que j'étais à Duby, ou bon, bref, on leur a plus ou moins appris, ou il avait oublié, et puis bon. On trouve par exemple des grands fichiers où il y a, et ça c'est extraordinaire, on retrouve là la méthode de travail qu'ils font d'avoir abandonné, mais qu'il n'a jamais abandonné depuis sa thèse, faire des fiches, surtout par généalogie, par lieu. Alors là, à l'époque d'Aix, il est déjà professeur, il les fait faire aussi, c'est un travail collectif, avec quelques élèves. Bon. On reconnaît d'autres noms, on reconnaît d'autres écritures, mais on voit à l'œuvre un travail de fichier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans à Aix, on voit aussi un fichier qui est le fichier Guillaume le Maréchal. Et donc la matrice proprement universitaire, académique d'Aix, elle fonctionne bien au-delà, contre la mise en scène en fait de l'écrivain au travail, bien au-delà de son élection au Collège de France en 1970. Voilà, je pourrais, ça c'est encore, des fiches sur Guillaume le Maréchal qu'on trouve à Aix, bon, où il a toujours gardé un bureau. Il faut évidemment pas se croire que les archives peuvent apporter plus qu'elles ne peuvent apporter. Le rapport entre Foucault et Duby, je dois énormément à Foucault, historien, dit-il à Jacques Chancel lors d'une radioscopie, juin 81, et encore en 1980, dans un article en anglais, pas très connu, sur faire un bilan historiographique, « Nul, dans les dernières années, mieux que Michel Foucault, n'aida les historiens à resserrer la trame de leur interrogatoire. » Bon, qu'est-ce qu'il y a sur Foucault? Il y a quelques pauvres lettres, il y en a deux de Foucault, où il dit à Duby, « Merci de m'avoir envoyé le temps des cathédrales. Bon. » dans un très intéressant fichier, qui est le fichier des correspondances, de Duby, où chacun de ses correspondants, non seulement on voit l'adresse, bon ok, ça c'est Jean Favier, mais le report de toutes les lettres qu'il a reçues, c'est son secrétariat encore. Voilà. Ça commence à devenir intéressant. On peut faire une étude de réseau intellectuel. Mais Foucault, il n'a pas besoin d'adresse, il est à côté, Collège de France. Une lettre. Évidemment, là encore, il y a une illusion archivistique qui recoupe l'illusion biographique. Et j'en terminerai par là. On voit bien que le visage d'archive que donne à voir Duby, même lorsqu'on va le traquer là où il n'est pas officiellement conservé, à Aix, est encore, je dirais, sinon un masque, du moins une pause un petit peu toujours très consciente d'elle-même. Et pour terminer, je lirai ce passage d'une franchise très surprenante des Essais d'Égo-Histoire. Qui est un texte très embarrassé, mais on a croit comprendre pourquoi, en fait. Bon, bref. Comment se dire ce sentiment que j'ai d'impuissance est pénible. Aussi suis-je très fortement tenté de truquer, persuadé d'ailleurs que sans en être conscient, je truque, que je bricole mes souvenirs, qu'ils se sont d'eux-mêmes bricolés tandis que je menais ma vie. Deux fois truqué dans un texte d'une profession d'historien, c'est quand même... Ça fait genre, quand même. Le plus beau, le plus troublant, c'est ça. C'est pas « je truque », c'est « je bricole mes souvenirs ». Mais c'est même pas « je bricole mes souvenirs », c'est « ils se sont eux-mêmes bricolés tandis que je menais ma vie ». Et le fait que les souvenirs se bricolent en direct au moment où l'on mène sa vie, c'est le simple fait, au fond, de l'archivage de soi, qui, de manière à la fois continue et non préméditée, construit progressivement une image de soi, un visage d'archive, qui, à la fin, n'est pas sans rapport, évidemment, avec le visage qu'il cache et qu'il protège, mais qui demeure toujours un masque de théâtre. Merci. Hein ? Ouais, marrant.
Moi, j'ai deux questions pour Patrick Bouchon, parce que j'ai trouvé ça absolument vertigineux, et je ne sais pas ce qu'en pensent les petits amis Philippe et les autres, mais c'est vertigineux parce que c'est vertigineux de ressemblance ou de parallélisme avec ce qu'on trouve sur Foucault, et sur deux points en particulier. Et en même temps, ma question est double, parce que c'est une double question de méthode. Moi, je n'ai pas de réponse, c'est un problème que je me pose tout le temps. Il y a un doute que j'ai tout le temps dans le travail qu'on fait. Alors, la première question, c'est la suivante. Par exemple, l'insistance sur cette tendance, ou cette volonté, ou cette recherche permanente de Duby, du basculement, du moment de bouleversement, de la rupture, etc., etc., qui est quelque chose qu'on trouve, c'est de retour de la recherche de la discontinuité chez Foucault depuis le début. C'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'idée qui émerge, et en même temps, c'est quelque chose dont on peut retracer la construction intellectuelle, parce qu'il y a une histoire de ça. Ou il y a deux histoires de ça, à la fois dans l'historiographie, dans une certaine histoire des sciences, de philosophie des sciences, depuis Bachelard jusqu'à Grouillem, etc., etc. Et du coup, la question que j'avais, c'était qu'est-ce qui est de l'ordre de la singularité ? Parce que c'est ça, moi, mon problème. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la singularité au travail, lorsqu'on fait ce type d'enquête que vous faites et qu'on fait sur Foucault, nous ? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de... Et là, du coup, les mots qu'on a pour dire, ou les mots que moi j'ai pour dire, sont extraordinairement faibles. On peut dire effet générationnel, mais c'est n'importe quoi, parce que c'est pas ça. On peut dire moment, comme dit Frédéric Worms, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais ça reste un mot très, très vague. Alors voilà, comment est-ce qu'on articule quelque chose qui est de l'ordre de la singularité, quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire intellectuelle et de détermination, qui sont des déterminations partagées. Alors, on va le voir dans ces trois jours de colloque, c'est à la fois des lectures communes, des profs qu'on a partagés, etc. Mais c'est aussi des thèmes qui se construisent dans le temps et auxquels on participe. La deuxième question que j'avais, c'est toujours une question de méthode, c'est à propos de cette fameuse et incroyable dernière page du Dimanche de Bouvines, parce que finalement, ce qu'on y entend, c'est cette espèce de feuilletage de temps différents, ou du passé et du présent, du dieu des croisades de Franco-Hiroshima-Auschwitz. Et ça, chez Foucault, il y en a de plus en plus dans le dernier Foucault, et en particulier dans les cours. C'est-à-dire qu'il y a, je pense aux deux dernières années de cours en particulier, sur le gouvernement de soi et les autres et le courage de la vérité, deux moments où Foucault interrompt, dans le cours de 82, c'est un moment où il est en plein dans la parésie socratique, et il annonce le passage au cynique, il s'arrête et il fait une sorte de parenthèse, et la parenthèse, et c'est pas un hasard, c'est une réponse à Derrida sur la différence entre l'écrit et la parole. Et puis le deuxième épisode, c'est le cours de 84, et c'est en plein dans les cyniques, et là, le cours du 29 février, la deuxième heure du 29 février 84, il s'arrête et il fait une généalogie de la vie militante, les sociétés secrètes, etc., etc., jusqu'au XXe siècle. Alors, ma question là aussi, elle est comment est-ce qu'on fait pour construire ce feuilletage du présent et du passé ? Est-ce que cette représentation de l'histoire qu'il y a derrière, qui est en matrice à l'intérieur, elle n'est pas là aussi partagée. Puis troisième chose, et on finit parce que c'est trop long, le rapport à l'écrit et à l'oral, alors ça Frédéric Gros l'a très bien montré, je ne sais pas s'il en parlera demain, mais les cours de Foucault, en tout cas les derniers, sont entièrement écrits. Et en même temps, ça pose un problème, est-ce que continuer à parler en termes d'écrit et d'oral en opposant l'un et l'autre, c'est pas finalement plaquer des catégories qui sont elles-mêmes historiques. C'est ce qu'on essayait de reconstituer, mais on n'en est pas au bout. Il y a des tas de moments où on a l'impression que chez Foucault, l'écriture est elle-même une élaboration de parole, par exemple.
Oui.
Que l'écriture, c'est le lieu de la pensée. Mais que cette écriture comme lieu de la pensée, s'il n'y a pas la profération en cours, elle ne vaut pas, ce que Frédéric a essayé de montrer dans sa note de cours du cours de 82, pas de la situation de cours de 82-83. Alors, là encore, la question, elle est pensée en termes de feuilletage présent-passé ou pensée en termes d'opposition écriture-parole-orale. Est-ce qu'on n'est pas dans une projection de schémas qui sont les nôtres?
Oui, merci beaucoup pour toutes ces remarques que vous avez pointées. À mon sens, autant de faiblesse ou au fond de facilité un peu paresseuse dans ce que j'ai dit là, c'est-à-dire oui, génération, d'abord c'est pas vrai, ils sont pas de la même génération. Voilà, écrit oral, oui, vous avez vraiment raison. Sur cette étrange familiarité, quand même, ça peut-être Philippe pourrait bien mieux répondre que moi, parce que voilà, on a travaillé ensemble pendant une semaine, et puis il a écouté du Duby avec sa connaissance, qui était incomparable pour moi de Foucault, donc il pourra mieux parler des échos. Quand même, de mon point de vue, pour vous répondre, oui, sur cette question sur cette pratique quand même étrange à la fin, et je veux dire, ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leur carrière, ils écrivent de plus en plus leurs cours au Collège de France. Bon. Ça, c'est quelque chose que je m'explique mal. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une sorte de, à la fin, de je sais pas, ils se sentiraient mieux, plus à l'aise, quoi. Voilà, bon, d'aisance, oui. C'est quelque chose qu'on voit très bien aussi chez Duby, c'est-à-dire qu'il y a, lorsqu'il écrit, de toute façon, il y a un âge où on n'a plus qu'une manière, voilà. Et il n'a pas de manière économique d'écrire. C'est-à-dire quand on lui demande une conférence d'une heure dans une société savante sur la femme au XIIe siècle, on est sidéré de trouver dans le dossier exactement la même chose, c'est-à-dire un plan, deux manuscrits, un tapuscrit corrigé et un tapuscrit repris, à chaque fois. Sur le coup, alors ça c'est quelque chose qui est très... Je psychologise bêtement, mais enfin je crois qu'il faut... Moi j'ai un peu compris en lisant ce que Paul Vein écrit dans Le Quotidien et l'Intéressant sur la terreur grandissante que lui procurait le fait d'avoir à prendre à la parole au Collège de France. Plus sérieusement, je crois que cette question de cette pratique d'écriture qui fait trembler évidemment ces catégories que j'ai un peu bêtement appliquées, écrit oral, là vous avez pleinement raison. Ce qui me trouble, c'est que normalement, dans la pratique historienne académiquement reconnue, on ne peut pas dire que la performance orale ou une sorte de conducteur rythmé comme celui de Guillaume le Maréchal fasse partie, des procédures ordinaires de validation de la preuve. Bon. Et donc, ça nous pose aussi un problème. C'est-à-dire qu'on sait bien aussi qu'aujourd'hui, historiographiquement, il y a, pour des raisons qui, à mon avis, sont des mauvaises raisons, des raisons idéologiques, une manière de rabattre Duby sur un travail de l'écriture, parce que précisément il tient quand même bon jusqu'à la fin de sa vie sur la question notamment du matérialisme historique, etc. Et aujourd'hui, on se méfie un petit peu de nos propres analyses littéraires et surtout de leur mésusage chez des historiens un peu positivistes qui, à chaque fois, nous disent avec un grand sourire « Ah bah oui, vous voyez bien, ce n'est que de la littérature. » Bon, c'est très difficile à faire entendre cette question-là. Et donc, une des manières, peut-être, de la faire entendre, c'est justement de saisir, je ne sais pas comment dire, un air de famille, un moment... D'où ça vient cette idée de la brutalité de l'émergence discursive qui devient à ce moment-là pour Duby la seule manière d'écrire de l'histoire, même sur on le voit très bien dans l'histoire des femmes qui est l'histoire des femmes c'est au XIIe siècle, c'est possiblement désespérant, c'est le fameux Vert de René Char, quoi. Voilà, c'est des synonymes d'un même vocable. Donc, y contredire est un devoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va trouver, je ne dis pas inventer, hein, on va trouver un moment où ça bascule, où il y a une sorte d'insurrection énonciative. Bon. D'où ça vient ? Alors, des lectures communes, en vous écoutant, dans cette dernière page du Dimanche de Bovine, il parle de Guernica. Il y a une culture visuelle commune aussi. Duby pensait vraiment sérieusement que Soulages lui disait l'histoire. C'est difficile de comprendre que Soulages est un peintre d'histoire. Mais pour Duby, lorsqu'il dit Soulages, le peintre que les cisterciens n'avaient pas, c'est-à-dire il n'y a pas de peinture du XIIe siècle s'il y a Soulages, car cette texture du temps, etc., bon, c'est sérieux, c'est pas une pose de style. Et donc peut-être qu'il y aurait-il à chercher aussi dans si on veut chercher les communautés d'esprit aussi, dans une culture visuelle partagée. Chez Foucault, bien sûr, c'est pas, me semble-t-il, enfin, ce n'est pas qu'une mise en exposition sans le rapport à la peinture. Enfin, je crois pas. C'est pas seulement une mise en intrigue. Mais pardon, je ne vous ai évidemment pas répondu.
Ah, juste un mot sur le miroir, parce que enfin, sur Duby, Foucault, chose semblable, il me semble que justement le passage par les archives brise largement ce parallélisme. Évidemment, il faut passer par la question de la mise en scène, qui est commune d'ailleurs aux deux exposés. Hein. Je trouve que c'est quoi la scène de lecture, que fameuse scène que tu as citée, Jean-Claude, et le fait que André Duby et Catherine construisent un IMEC dans un lieu qui n'accueille pas traditionnellement les archives des historiens, mais les archives de la littérature, les archives du Bi, en rappelant ce que en montrant bien que la différence entre les deux ensembles d'archives, c'est-à-dire les quatre boîtes de la thèse et le reste, les quatre boîtes de la thèse n'avaient pas été prévues.
Oui, c'est ça. Oui,
donc c'est les archivistes qui disent, mais ça c'est quoi ? Ah, mais ça c'est la thèse. Oh, bah ça nous intéresse. Mais elle n'a pas prévu. Et quand même, avec une non-extériorité de Madame Duby au travail de Georges Duby, puisque comme vous savez, elle, notamment, procès de Jeanne d'Arc, pour la collection Archives, on comparera demain, elle est co-auteur. Donc quand même, une construction, et y compris dans les manuscrits, dans la manière dont Duby, quand même, conserve. Bizarrement, conserver toute la merde à Aix et puis les belles choses chez lui. Enfin, pour le dire quand même, les beaux manuscrits, ils sont à la maison, quoi. C'est un peu.
Oui, dans une malle. Oui, oui.
Ce qui est totalement différent chez Foucault, sachant que le rapport au manuscrit il est quand même beaucoup moins fétichiste que. Les rares manuscrits, je montrerai encore demain qu'on a, y compris, c'est quand même des choses qui étaient restées sur la table, et que, à moins d'événements, mais ça, on ne sait pas, la mise en scène, et après, il y a un redoublement de la mise en scène de l'archive. Pour l'instant, la figure de Foucault au travail, c'est une figure du philosophe, c'est-à-dire qui est en chantier permanent, et pas qui fait des boîtes avec des opus. Hein. C'est vraiment un Foucault, et je ne sais pas si c'est Foucault, on ne sait pas si c'est Foucault, ou si c'est d'autres qui derrière, mais toujours est-il que c'est une pensée en action, en mouvement, et donc qui ne se ferme jamais dans la boîte. Hein. C'est ce que ce qu'on a vu, ce qu'on verra. Mais Bon, moi je trouve que les deux interventions disent quand même quelque chose de très fort sur aussi les limites de l'enquête. Je trouve que c'est mais pas, enfin, et là pour Duby, l'énormité aussi des matériaux, la rareté chez Machiavel quand même, et là l'énormité, et en même temps avec un sacré piège méthodologique.
Ah oui, tout à fait.
Mais j'ai coupé la parole, Pascal.
C'était pour dire tout le plaisir que j'ai eu à t'en exposer, Patrick, parce que vraiment c'était magnifique. Il y a eu des moments en particulier quand tu nous as montré la façon dont il écrivait, transcrit par toi après, on aurait dit du Mallarmé. C'est un vrai poème avec ses dispositions rythmées comme ça dans la page. Tu as plusieurs fois prononcé le mot de poétique, et je pense que peut-être il faudrait qu'on introduise cette notion un peu plus sérieusement, si tu veux, que tout simplement de la poser comme ça. Il y a une poétique, il y a des études de poétique, il y a des méthodes, et cette poétique, ou ces poétiques, il y en a certaines qui se sont intéressées précisément à l'oralité dans l'écriture. Donc là, il y a quelque chose qu'on pourrait utiliser, je pense à Méchonic, évidemment, sur la question du rythme, de l'oral, ça correspond exactement à ce que tu décrivais. Maintenant, sur l'action de la génération de l'effet de période, tu sais comme moi que mon maître, c'était pas Duby, c'était Le Goff, mais lui, il n'écrit pas comme ça. C'est vraiment différent. Donc, là, il y a aussi un effet de singularité, je pense, qu'il faut vraiment être assez précis. Ça ne concerne pas tout le monde à la même époque. Et puis, la troisième chose que je voulais dire, c'est à propos de ces questions de basculement. Parce qu'en réalité, ce sont juste des indications. Mais à la fin des années 50, tu as le texte de Braudel sur les différentes couches temporelles. Et quand il parle du temps structurel, avant Foucault, parce qu'on a reproché à Foucault d'annihiler l'histoire, etc. Mais Braudel le disait déjà 10 ans avant. Et il disait, il y a des structures longues, enfin, il y a un temps long, et puis il y a des moments de bascule. Et comment ça se passe? Ça se passe par désarticulation de la structure, et ça bascule. Bon, c'est ce que tu disais autour de l'ennemi, il y a quelque chose qui bascule. Je pense que c'est une question quand même qui est assez commune à l'époque. Tu la trouves chez Braudel, tu la trouves aussi chez Simondon. Simondon, de manière totalement différente, c'est beaucoup plus abstrait, mais pense aussi à la question de la restructuration, et il la pense de la même manière. C'est un moment de bascule par, dit-il, augmentation des tensions internes, et puis tout d'un coup restructuration par transduction. Enfin, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais le problème est le même. En fait, ayant un petit peu réfléchi à ça, je pense que c'est lié à une question politique. C'est-à-dire que tous ces gens-là se posent la question de la révolution. C'est en fait, c'est quand même ce qui est derrière tout ça, c'est 1917 en particulier, mais c'est aussi la guerre, c'est aussi les grands moments de bascule qu'ils ont traversés pendant le début du XXe siècle. Et je pense que le modèle, tu parlais de modèle esthétique, c'est certainement vrai, mais il y a un autre modèle qui est un modèle purement politique et historique, c'est l'expérience qu'ils ont traversée, et puis une réflexion, je dirais, qui tourne autour du marxisme, autour des changements sociaux, etc., des grandes bascules, qui est assez commun à cette époque. C'est-à-dire que quand on reproche à Foucault, tardivement d'ailleurs, d'annihiler l'histoire, c'est une blague, quoi, parce que d'abord il n'est pas le premier à dire ce qu'il dit, et puis ensuite, évidemment, il n'a pas. C'est simplement une autre façon de penser l'histoire. Et donc Duby, moi je le mettrais un peu en lien, en tout cas, avec ces questions-là, même si de temps en temps, l'événement comme pour Bouvines peut être beaucoup plus court. Hein. Enfin, c'est pas forcément une bascule complète d'un système.
Voilà. Il y a Jean-Claude qui veut réagir.
Je voulais juste dire qu'il y a chez Braudel, quand il y a le temps long, il y a l'exclusion. C'est-à-dire que ça dit clairement, dans la préface de la Méditerranée, ça dit clairement, et on est juste après, ça dit « Méfiez-vous de cette histoire brûlante encore du temps des hommes ». Donc, on va pas parler de ça, parlons pas de ce qu'il fasse. Donc, s'il y a effectivement la question de la 17 ou la question de la guerre, c'est par l'exclusion, ça. C'est vraiment qu'il ne veut pas qu'on en parle. La citation, les textes.
Oui, mais je ne sais pas si on peut la comprendre.
Il y a un mec qui dit méfiez-vous de l'histoire des hommes brûlante encore après 45, c'est qu'eux, il y a un problème. Non, je veux juste dire ça.
On ne comprend pas la question du tout de la même manière.
Sur ce point-là, en tout cas, après, sur les autres questions, c'est autre chose. Ça, c'est clair.
Parce que dans son, tu sais, le texte où il explique les différences temporelles, où il y a l'écume superficielle des événements, il y a le temps social et le temps des structures. Bon, moi, je trouve ça n'a pas vieilli, ça.
Pas le temps
ça,
des acteurs.
On pourrait faire le même reproche à Foucault dans ce cas-là. Donc, il y a des choses, c'est ça. Mais sur la politique. Hein.
Oui, sur les instances, il faut qu'on
se... Non, on se donne...
Deux minutes
non, on va
D'accord, oui. Minutes. Oui, sur la politique, t'as raison. C'est vrai que il faudrait prendre cela plus au sérieux. Sur Guillaume le Maréchal, il y a 5 ou 6 États, j'ai tenté de le faire. Enfin, il y a une question d'accent. L'accent, c'est assez sidérant de voir que il y a des dans ce qui bouge. Il y a des reformulations sans cesse, mais l'accent reste toujours là où il était dans le conducteur. Donc il change les paroles, mais pas la musique. Et la musique, elle est quand même écrite d'emblée sur 40 pages, dont il ne sort pas. Et qui, évidemment, est nécessairement conçue au Gaulois. Voilà. Bon, ça, oui, ça, je le crois. La temporalité, oui, je pense que l'écart entre Brodel et Duby de ce point de vue-là est vraiment maximal. Enfin, moi, je vois vraiment peu de choses en commun de ce point de vue-là. Politiquement, c'est délicat parce que je crois que, là encore, on a fait des enquêtes sur ses essais d'égo-histoire et un avant-texte qu'il a abandonné où il présente un peu plus... sincèrement qu'il ne l'a publié son rapport au pacifisme, son amour de Giono, qui est célébré sur le plan littéraire, signifie aussi du point de vue politique. L'histoire continue commence quand même par cette phrase étrange. En 1942, je suis agrégé. Bon, voilà. Donc, à ce moment-là, il n'est pas bouleversé par l'événement. Hein. Bon. Et ensuite, après, il cavale après le fait qu'en 1942 il était agrégé.
Ouais. Ça c'est. Quand t'as fait une analyse très précise de ce premier paragraphe où tu montres bien, enfin, ouais. Tout le.
Oui oui. Ben, il y a tout un truc là-dessus.
C'est pas le même petit événement.
Non, mais en même temps, je crois que là je pense que il faut si je peux me permettre, revoir sa leçon inaugurale au Collège de France des sociétés médiévales. Qui est un texte beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, très très compliqué, où il pose sa voix. D'abord, il y a un fait institutionnel très évident, qui est que à ce moment-là, en 1970, Duby inaugure une chaire nouvelle. Il n'y avait pas d'histoire médiévale au Collège de France depuis Michelet, qui d'ailleurs avait une chaire qui s'appelait Histoire et morale. Bon. Il y avait depuis 1850 une chaire de littérature médiévale qui était, lorsqu'il y en avait un qui claquait, l'autre le remplaçait, voilà, et qui était issue justement, qui était née de de l'éviction de Michelet. Hein. C'est-à-dire qu'on a une lettre très claire de 1852 après le coup d'État du ministère de l'Instruction publique en demandant à l'administrateur du Collège de France « Trouvez-nous une science inoffensive. » Et cette science inoffensive, c'est la littérature médiévale. Et donc Duby, lui, il est dans une situation de parole qui est exactement comme Foucault. C'est incroyable, c'est à 2 jours près. Et à 2 jours près, la leçon inaugurale de Foucault qui dit j'aimerais ne pas commencer et poursuivre, etc. La conversation, c'est très exactement le contraire de Duby, qui est le premier homme. qui est le premier, il a pas à remercier ses prédécesseurs, il n'y en a pas. Et donc, là, il y a un événement de parole absolument sidérant, mais ce dont il parle, c'est, il dit, voilà, il y a des instances de temporalité, je ne m'intéresserai qu'à leur désajustement. Le fait que le temps soit étagé m'importe peu, je commande, hein, au fond, ce qui m'intéresse, c'est les effets de désynchronisation entre les différents temps sociaux.